VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour un tour d'horizon de l'actualité en 10 minutes. Attaque meurtrière au Nigeria. Au moins 50 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées aujourd'hui, selon un bilan de la police, dans un attentat suicide à Moubi, dans le nord-est du pays, foyer de l'insurrection du groupe Boko Haram. Le kamikaze s'est fait exploser parmi les fidèles pendant les prières du matin, a déclaré à l'AFP Haruna Fouro, responsable de l'agence de gestion des urgences de l'État d'Adamawa. Au Zimbabwe, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, limogé il y a 2 semaines, a appelé aujourd'hui le président Robert Mugabe à démissionner afin de préserver son héritage et de permettre au pays d'avancer. Dans une déclaration envoyée à la presse, M. Mnangagwa, dont l'éviction a provoqué le coup de force de l'armée contre le régime Mugabe, a confirmé qu'il était en contact avec le président Mugabe. Il a aussi souligné avoir été invité par le président à rentrer au pays pour une discussion sur les événements politiques en cours, une proposition qu'il dit avoir rejetée tant que les conditions de sa propre sécurité ne sont pas satisfaites. Les influents anciens combattants ont appelé aujourd'hui la population à manifester dès maintenant et se diriger vers le Toit Bleu, la résidence privée du chef de l'État, pour que Robert Mugabe quitte le pouvoir immédiatement, a déclaré à l'AFP le chef des anciens combattants, Chris Mutvangwa. Une procédure de destitution doit être engagée aujourd'hui par la ZANU-PF à l'encontre du président Mugabe qui refuse de quitter le pouvoir. La ZANU-PF veut accuser Robert Mugabe d'avoir autorisé sa femme à usurper des pouvoirs et de ne plus être en capacité physique d'assurer son rôle compte tenu de son grand âge, a précisé le député Paul Mangwana. La SADC se réunit également aujourd'hui à Luanda en Angola donc, pour se prononcer sur cette crise politique au Zimbabwe. Au Libéria, la Commission électorale nationale a rejeté hier les recours contre le déroulement du premier tour de l'élection présidentielle introduit par les deux candidats arrivés derrière le sénateur et ex-star du foot George Weah, les partis du vice-président Joseph Boakai, arrivé deuxième, et de Charles Brumskine, qui avait terminé troisième lors du premier tour le 10 octobre, ont annoncé qu'ils feraient appel de cette décision. En République démocratique du Congo, 56 personnes ont été tuées entre avril et octobre 2017 dans des manifestations politiques. C'est ce que révèle un rapport de monitoring réalisé par la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Un rapport rejeté aussitôt par le gouvernement qui accuse l'Église catholique de vouloir jeter le discrédit sur le gouvernement. Les détails avec Thierry Kamboudi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Sur les 56 personnes tuées, 52 l'ont été par balle, une par gaz lacrymogène, en plus de 3 policiers tués par des manifestants, précise le rapport. L'Église catholique au Congo déplore le fait que les manifestations publiques organisées par les partis politiques de l'opposition politique, les organisations de la société civile et les mouvements citoyens qui sont en dehors du gouvernement ont été étouffées, empêchées, interdites et dispersées par la police avec l'usage des gaz lacrymogènes et des balles réelles. Dans ce même document, l'épiscopat constate par contre que les manifestations ou réunions publiques organisées par les partis politiques de la majorité présidentielle ainsi que celles organisées par les partis politiques de l'opposition partie prenante au gouvernement se sont déroulées en toute quiétude. Il est à noter selon le rapport que 355 cas d'arrestation mêlés à la police, au FRDC et autres services spécialisés ont été enregistrés sur la période allant d'avril à octobre 2017. En réaction, le gouvernement se dit assez embarrassé. Sans identité des victimes ou des présumées victimes, nous ne savons pas comment le gouvernement peut entreprendre une enquête ou une investigation pour savoir exactement de quoi il s'agit, a dit Lambert Mende Omalanga à Top Congo FM. Pour lui, la CENCO n'avance que des chiffres. Ce nombre peut aider un gouvernement à faire une investigation, indique le porte-parole du gouvernement, qui souligne que ce rapport de la CENCO ne vise qu'à jeter du discrédit sur le gouvernement de la RDC. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, et Chiping Patrick Ho, responsable d'une ONG basée à Hong Kong et en Virginie, dans l'Est des États-Unis, ont été inculpés par la justice américaine dans une affaire de corruption de hauts responsables au Tchad et en Ouganda. Ils sont accusés d'avoir corrompu des hauts responsables de ces deux pays afin d'obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise. Les pots de vin représentent plusieurs millions de dollars, selon un communiqué du ministère américain de la Justice publié hier. Le ministre adjoint de la Justice, Kenneth Blanco, a cité le président du Tchad et le ministre ougandais des Affaires étrangères sans communiquer leur nom. En échange d'un pot de vin de 2 millions de dollars, le président du Tchad aurait offert à l'entreprise pétrolière chinoise des droits pétroliers sans passer par un appel d'offres international. L'ancien ministre sénégalais aurait joué un rôle central dans cette affaire. Et puis, le président nigérien Mahamadou Issoufou a appelé hier la Cour pénale internationale à se saisir du dossier sur la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. Il a soutenu que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Dans cette même logique, le Burkina Faso a rappelé son ambassadeur en Libye. C'est ce qu'a annoncé hier le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Barry, qui dit avoir agi sur instruction du président Roch Kabore, qui a demandé que l'ambassadeur revienne pour lui donner toutes les informations nécessaires avant le sommet d'Abidjan. La Côte d'Ivoire accueille en effet les 29 et 30 novembre un sommet Union africaine-Union européenne.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'Allemagne entame aujourd'hui des consultations pour sortir de l'impasse politique après l'échec des tentatives de la chancelière Angela Merkel pour former un gouvernement de coalition. Le président de la République fédérale, Frank-Walter Steinmeier, a annoncé son intention de faire le tour des partis susceptibles de participer à un gouvernement sous l'égide de Mme Merkel, tous sauf l'extrême droite et la gauche radicale. Les États-Unis ont décidé d'inscrire à nouveau la Corée du Nord sur la liste noire des États soutenant le terrorisme pour accroître la pression contre son programme nucléaire. L'annonce a été faite hier par le président américain Donald Trump. Les détails avec Anastasie Tudjech.
Le président avait promis de prendre cette décision après son récent voyage en Asie. L'un des principaux arguments de cette mise au ban est le meurtre avec un agent neurotoxique de Kim Jong-un, demi-frère en disgrâce du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en février en Malaisie, pour lequel le régime nord-coréen est soupçonné. Le régime de Kim Jong-un rejoint ainsi les autres ennemis des États-Unis inscrits sur cette liste, l'Iran et la Syrie, deux des autres principales bêtes noires de Washington, et le Soudan, qui rentre toutefois progressivement dans les bonnes grâces américaines. Pyongyang avait déjà figuré sur cette liste noire de 1988 à 2008 en raison de son implication présumée dans l'attentat à la bombe contre un avion sud-coréen qui avait fait 115 morts en 1987. L'administration républicaine de George Bush l'avait retiré pour favoriser des négociations sur le nucléaire qui ont finalement échoué.
La Chine a appelé aujourd'hui au dialogue pour résoudre le dossier nord-coréen. Vladimir Poutine a reçu hier le président syrien Bachar al-Assad avant d'accueillir ce mercredi un sommet Russie-Iran-Turquie visant à relancer la recherche d'un règlement politique à la crise en Syrie. Le président russe, principal soutien du régime syrien, multiplie les contacts à quelques jours de nouveaux pourparlers sous l'égide de l'ONU, prévus à Genève le 28 novembre. L'objectif est de mettre fin à une guerre qui a fait au moins 330 000 morts, en 6 ans et des millions de déplacés. Les principaux groupes palestiniens se réunissent aujourd'hui au Caire. Ils tentent de prolonger la dynamique de leur projet de réconciliation malgré la persistance de différents fondamentaux à l'approche d'une échéance significative. Depuis un accord remarqué conclu le 12 octobre sous les auspices de l'Égypte, des crispations se sont manifestées entre l'autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas et le mouvement islamiste Hamas. C'est tout pour cette édition d'information. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.